Je crois que si Anne-Marie et moi nous étions concertés pour choisir le chant d'introduction à ce message, on n'aurait pas pu trouver un meilleur chant. Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, ôtera même, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voilà donc pour la lecture de ce passage qu'on appelle communément la parabole des talents. Comme vous le savez, les paraboles ont une signification principale, un fil directeur qui conduit vers un enseignement bien précis. Et lorsqu'on les analyse, il faut toujours garder en ligne de mire ce fil directeur et ne pas trop s'en écarter. Les paraboles sont des images, et comme toutes les images, elles sont limitées, elles illustrent un point précis, mais elles sont limitées et il faut se garder d'extrapoler dans des directions qui sortent de la ligne directrice évidente. Et la ligne directrice évidente que nous donne la parabole des talents est tout aussi évidente pour nous aujourd'hui qu'elle l'était du temps de Jésus. Que vais-je faire de la grâce que Dieu m'a faite? Que vais-je faire des dons qu'il m'a confiés? Que vais-je faire de tout ce que je reçois de lui? Une question intéressante à se poser, particulièrement à l'approche de la rentrée, en cette année où nous avons choisi comme mot d'ordre « consacrer à Dieu ». Consacrer à Dieu mes talents? Consacrer à Dieu toutes les richesses que nous recevons de lui par sa grâce? Voilà un chouette et beau programme. Oui, la ligne directrice de cette parabole, la ligne évidente, est bel et bien d'actualité pour nous, et on a là de quoi beaucoup méditer. Mais ce matin, alors qu'il flotte encore un petit air de vacances, que certains sont de retour, mais pas tous, je voudrais vous proposer une petite flânerie. Non pas qu'il s'écarte de la ligne directrice de la parabole, mais une promenade autour de la parabole, autour de la question des talents, et plus particulièrement au sujet de leur administration. et un peu à la manière des livres de droit, et là je vous plonge déjà dans la rentrée, j'avais envie d'intituler cette réflexion de la bonne administration des talents. Et puis finalement, je me suis orienté vers un autre titre. Quel regard portons-nous sur les talents, sur nos talents ? Parlons un peu du talent. Comme beaucoup de monnaies, au départ, le talent initialement était une unité de masse, comme aujourd'hui le kilo ou le kilogramme ou la tonne. Il équivalait à environ 20 kilos de pièces d'argent. Donc le talent était une unité monétaire considérable et assez volumineuse. Ce n'était pas en tout cas une petite piécette qu'on glissait dans sa poche. Elle représentait environ 13 ans de salaire pour un travailleur agricole. Elle véhiculait l'idée générale d'un montant élevé, dont on n'appréhendait pas forcément exactement la valeur, dont on avait du mal à appréhender la valeur quand on était le commun des mortels, si vous voulez. Peut-être parlait-on de talent comme aujourd'hui on parle de millions, hein, c'est-à-dire sans vraiment appréhender. On sait, oui, que des gens ayant une certaine position dans la société manipulent les millions comme nous on manipule les euros, mais c'est pas le commun des mortels. Et voilà peut-être une image de ce que pourrait être le talent, même s'il ne faut pas y voir de relation de valeur directe. Il n'existait pas de pièce de un talent, comme il existe aujourd'hui pas de billet de 1 million. Il fallait rassembler beaucoup d'argent pour constituer un talent. Et deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que l'homonymie qu'il y a entre le talent monétaire et le talent, le sens actuel du mot talent en français, ce n'est pas du tout une coïncidence, puisque c'est la parabole elle-même qui a donné au mot français talent, qui a donné ce mot français talent pour exprimer, c'est de là que vient le mot talent, pour exprimer les dons, les aptitudes que tout homme reçoit en partage à sa naissance. C'est donc à cette parabole qu'on doit le sens du mot français talent, et qui évidemment ne se retrouve pas dans la plupart des langues parlées d'aujourd'hui. Et donc voilà le maître qui part en voyage et leur remet ses biens à chacun selon sa capacité, nous est-il dit. Un reçoit 5 talents, le second 3 et le troisième un seul talent. Et voilà le premier point que je voudrais développer. J'en ai développé 4, donc vous savez où on va. Le premier point que je voudrais développer, c'est que personne n'est jugé totalement incapable, puisque celui qui reçoit le moins reçoit tout de même un talent. Personne n'est totalement incapable, personne n'est jugé indigne de se voir remettre une partie des biens du maître. Et même s'il s'agit que d'un seul talent, et c'est relativement peu comparablement à celui qui en reçoit 5 ou même 2, souvenons-nous que c'est il s'agit là d'une unité de grande valeur monétaire. Et donc le serviteur qui reçoit un seul talent se trouve tout de même dépositaire d'une grande fortune. Tout talent a de la valeur aux yeux du maître. Tout talent mérite attention. Tout talent mérite d'être administré avec sérieux. Quand nous méprisons, quand nous négligeons, quand nous dédaignons un talent que Dieu nous a confié, il peut y avoir, sous une apparence de modestie et d'humilité, en fait, peut-être une injure faite à la grâce de notre Seigneur qui veut nous le confier, parce que lui nous sait capable de l'administrer. Serions-nous plus sages que lui ? Saurions-nous lui conseiller un meilleur administrateur ? Je crains qu'à ce jeu-là, on se rapproche dangereusement du cas du troisième serviteur qui explique à son maître que, ben voilà, il ne se sent pas trop concerné par ce talent et préfère le lui rendre plutôt que de prendre des risques personnels avec ça. J'ai lu cet été un livre très intéressant, mais dans lequel j'ai retiré ceci, en tout cas en rapport avec notre lecture. Si vous entendez une voix intérieure vous condamner, vous critiquer, vous susurrer que vous n'êtes finalement pas capable de faire ce que Dieu attend de vous, cela ne vient pas de Dieu. Si au contraire, vous entendez une voix qui vous souffle mielleusement que vous êtes vraiment bon et qui vous rappelle que tout ce que vous avez dit ou fait de bien, qui vous rappelle uniquement tout ce que vous avez dit ou fait de bien, cela ne vient pas non plus du Seigneur. Voilà, les pensées qui nous viennent de Dieu nous portent vers des œuvres pour lesquelles il nous a équipés, pour lesquelles il nous a rendus capables et il nous estime capables. Les pensées qui nous viennent de Dieu nous font porter sur nous-mêmes un regard lucide. Le deuxième point que je voudrais développer concerne l'idée, la notion même de capacité. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de capacité? Alors, bien entendu, il y a la notion d'aptitude à administrer les biens du maître. Mais la capacité est peut-être un peu différente du don. Ou plutôt, la capacité n'est pas que le don, elle englobe le don. Je vais prendre un exemple avec mon petit frère, qui a présenté depuis sa plus tendre enfance un intérêt très marqué pour la musique. Mais c'est quand il a reçu un orgue électrique pour Noël que mes parents ont compris que là, il y avait un vrai don. Ils l'ont inscrit à l'école de musique de la commune, au piano, en solfège. Ils ont loué un piano pour voir si ça se confirmait. Puis quelques années plus tard, ils ont acheté un piano. Et toutes ces années, il est resté travailler assidûment, vraiment pendant plusieurs années. Et un vrai talent s'est développé. Et il a continué en poursuivant ses études dans le domaine de la musique. En parallèle, il écrivait aussi beaucoup et avait aussi un don particulier pour la chronique journalistique, avec souvent un esprit d'à-propos et de critique très développé. Je me souviens, il faisait pour la famille simplement une petite rubrique « La France cette semaine » et chaque semaine, il sortait une carte de France avec des petits commentaires de ce qui s'était passé ça et là dans la semaine, et toujours avec un regard un petit peu humoristique. En définitive, aujourd'hui, il fait carrière dans l'édition musicale, un domaine qui fait la part belle à ces deux choses, aussi bien la musique que la capacité, le don pour l'écriture, la chronique journalistique. On peut être très doué, mais incapable d'utiliser et de mettre à profit ses dons, tout comme on peut être très riche, mais incapable d'administrer ses richesses, jusqu'à ce qu'on connaît des cas de gens qui se sont retrouvés ruinés, qui ont hérité de fortunes de leurs parents, mais incapables de les gérer, se sont retrouvés en quelques années au bord du gouffre financier. Et si malgré les efforts et les sacrifices de mes parents pour le doter des moyens nécessaires à l'éclosion de son don, mon frère n'avait pas travaillé avec persévérance, il ne serait pas parvenu à ce résultat. Aptitude peut très probablement rimer avec aisance, mais rarement avec facilité. Pas plus que capacité ne rime avec paresse. Toujours dans le même livre que je vous ai cité tout à l'heure, où j'avais lu dont j'ai cité une phrase, l'auteur Bill Hybels commentait un verset des Proverbes, le verset des Proverbes qu'on connaît bien, qui est très, très savoureux, à propos du paresseux, qui dit « Il y a un lion là-dehors, surtout ne sortez pas ». Et on sait bien entendu qu'il s'agit d'un prétexte, parce qu'aucun lion ne rôde comme ça dans la rue. Mais admettons, il y a réellement un lion. Dans ce cas, dit-il, pourquoi ne te joins-tu pas à la troupe des chasseurs? Chez nous, sur notre terrain, nous avons été envahis depuis plusieurs années de lapins. Et pour Chantal qui fait le potager, c'est un crève-cœur pendant 2 ans de voir ses lapins tout dévastés, tout mangés. Enfin. Et puis l'année dernière, Chantal me dit, bah oui, mais on a aussi des trous dans le grillage. Et ces trous, peut-être sur les bouchets, ça résoudrait le problème. Et moi, je lui dis, tu sais, ils trouvent toujours un endroit pour passer. Les trous, il y en aura partout, même que tu ne verras pas et tout. Chantal a dit, bouchons les trous. Elle a bouché les trous, il n'y a plus de lapins. La capacité, plus que le talent, c'est ce dont on l'entoure. C'est ce mélange de sérieux, de détermination, de persévérance qu'on met à exercer ses talents. La capacité peut croître et s'enrichir de l'expérience, s'accroître par la connaissance du sujet et sa maturité. La capacité se saisit du don et elle le démultiplie comme un levier. Et c'est ainsi que 5 talents en deviennent 10. C'est ainsi que 2 talents en deviennent 4. La capacité, c'est aussi l'art de rassembler, d'articuler ensemble tous les dons que nous avons reçus, de les faire s'exprimer harmonieusement, tous ensemble, dans un métier, un service ou un ministère. Qui sont ces serviteurs jugés capables et très capables que ces deux-là qui reçoivent 5 et 2 talents? Comment le maître peut-il connaître leurs capacités? Et peut-être la réponse du maître au rapport de ses serviteurs est une piste d'explication. Au verset 21, et il le répète au verset 23, « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Il y a peut-être là l'idée qu'on se trouve en fait dans un processus un peu habituel. Tu as été éprouvé sur une quantité limitée de biens et tu as pris la chose au sérieux. Non seulement l'aptitude que j'ai discernée en toi s'est confirmée, et en fait, plus à tes yeux et à ceux de tes collègues qu'aux miens, parce que n'oublie pas, c'est moi qui t'ai fait, mais tu t'es montré digne de confiance, de la confiance que j'avais placée en toi. Au-delà de ton aptitude à gérer ce que je t'ai remis, je reconnais ton intégrité et ton sens des responsabilités. Désormais, je te confierai plus. Le maître en question, bien sûr, c'est Dieu lui-même, et il n'a pas besoin que son discernement soit confirmé, ni que l'intégrité ou le sens des responsabilités du serviteur soit reconnu, mais le serviteur lui-même en avait besoin. Il est très inquiétant de se voir confier des charges lourdes sans s'être étalonné sur des plus petites. Et l'entourage du maître, sa famille, les autres serviteurs en avaient également besoin. J'ai toujours été très perplexe en voyant parfois comment dans le monde du travail on confie des responsabilités très très lourdes à telle ou telle personne pour ensuite la lui retirer au premier faux pas. Et quand vous vous trouvez dans un tel contexte, les autres employés, ils font profil bas en essayant surtout que rien ne dépasse pour ne pas se faire remarquer et pas être le prochain sur la liste. Dans cette idée du processus, celui à qui on confie beaucoup est possiblement quelqu'un à qui avait été confié très peu précédemment, mais qui s'est avéré digne de confiance et s'est vu confier progressivement plus. Notre histoire n'est qu'une parabole, je l'ai dit tout à l'heure, et donc il n'y a aucune antériorité historique à l'instant, par rapport à l'instant au moment où on l'apprend. On l'apprend à un moment donné et au moment où elle nous est racontée. Mais peut-être si on la transposait dans la réalité, on pourrait assez logiquement penser que celui qui a reçu 2 talents s'était trouvé précédemment à la place du 3e serviteur et qu'on lui avait confié 1 seul talent et que l'ayant bien géré, eh bien, il s'en voit confier 2 aujourd'hui. Et il se peut donc également que lors d'un prochain voyage, le maître lui confie 3, 4, 5 talents. Donc 2 points jusqu'à présent personne n'est jugé incapable. Et si l'aptitude est un don, si elle est innée, si le don peut s'exercer avec une certaine aisance, la capacité, elle, se construit, s'éprouve et s'enrichit. Le troisième point que je voudrais aborder concerne le premier serviteur, celui qui a reçu le plus. 5 talents, nous est-il dit. 5 talents, c'est considérable. Surtout au regard de celui qui n'en a qu'un seul, dont on nous dit que c'est déjà énorme. Et cependant, je ne peux m'empêcher de trouver la proportion intéressante. Un rapport de 1 à 5 entre ces deux serviteurs, je trouve que ce n'est pas démesuré. Vous le savez, l'État a souhaité limiter le rapport d'écart des salaires dans les entreprises dont il détient la majorité du capital et il a fixé une limite à 20. Et il ne peut pas y avoir dans une entreprise gérée par l'État un rapport salarial plus élevé que 20 entre les salariés. 20. Et déjà ça a paru incroyablement restrictif pour un CAC 40, alors j'ai regardé, qui est habitué à des rapports qui vont à plus de 1 à 200. 200. Toucher 200 fois plus de salaire que son collègue. Donc, un ratio, tout compte fait, un ratio de 1 à 5, voilà qui semble raisonnable de la part de ce maître. Et peut-être ça peut nous amener à réfléchir à un partage raisonnable des tâches et des responsabilités dans l'Église, à l'instar de ce maître avisé selon les capacités de chacun. La notion de capacité étant celle que j'ai citée, mais également aussi entre en ligne de compte la disponibilité familiale et professionnelle. Dans un ratio de 1 à 5, il y a de la place pour tout le monde. Continuons notre petite flânerie en observant ces trois personnages. Ce qu'ils font avec les talents qui leur sont confiés, c'est l'objet même de la parabole. Ils font fructifier, ou pas. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans leur façon de gérer les biens que le maître leur a remis. Enfin, pour les deux premiers, parce que le troisième, ce n'est pas un exemple. Ils semblent très affairés avec les talents qui leur ont été remis et ne s'occupent absolument pas de ce que font les autres avec leurs propres talents. Rappelons-nous quand même que le talent, c'est une somme considérable, c'est une petite fortune. Et sachant que l'argent excite bien des convoitises, pourrait se développer entre eux une forme de jalousie, de rivalité, de compétition. Pourquoi a-t-il reçu 5 talents alors que je n'en ai que 2? Pourquoi donner un talent à cet incapable? Regarde le faire. Il va tout perdre en rien de temps. Moi, je saurais quoi en faire. Et d'ailleurs, pourquoi ne m'a-t-on pas confié les 8 talents? Si j'avais 5 talents, tu verrais ce que j'en ferais. Mais 2 talents, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Etc, etc. À quoi ça sert de lorgner dans l'assiette du voisin pour s'inquiéter du talent qui ne nous a pas encore été remis? Tu en veux plus? Fais comme le maître a dit. Acquitte-toi bien de ceux que tu as en charge aujourd'hui, mais y tout ton cœur, et il t'en confiera beaucoup plus. Mais que ton regard ne dévie ni à droite ni à gauche, car sinon tu vas perdre et négliger un des précieux talents qu'il t'a confié. Il ne fructifiera pas, on va le confier à un autre, comme c'est le cas. Au pire, tu risques de te le faire voler. En fin de compte, tu seras jugé moins capable qu'escompté au départ, on te confiera moins que ce qu'on t'a confié jusqu'ici. Vraiment, nos deux bons serviteurs sont très concentrés sur ce qu'ils ont à faire, très attentifs, très concernés, très appliqués. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder, je le mets en rapport avec un texte de 1 Corinthiens au chapitre 7, au chapitre 4, verset 7. Car Qu'est-ce qui te distingue ? Dit Paul aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Et il faut bien comprendre le sens de ce verset, en particulier la dernière phrase qui peut prêter à confusion. Hein. Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Je suis allé à la boîte et j'ai la boîte aux lettres et j'ai rien trouvé. Hein. Il faut vraiment le mettre en rapport avec la phrase précédente. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ? Explique-moi en quoi tu peux te glorifier de tes dons comme si cela venait de toi. Comme si, au lieu de les recevoir de Dieu, tu en étais ton propre dispensateur. Si réellement j'y pouvais quelque chose, je crois que je serais beaucoup plus doué que je le suis. Il y a 4 ou 5 dons très sympas que j'aimerais bien acquérir. Le contexte dans lequel ce passage est écrit, le passage donc que nous venons de lire, écrit par l'apôtre Paul aux Corinthiens, est celui de la dispute que peuvent avoir les Corinthiens au sujet de qui leur a enseigné l'Évangile. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Et ce passage montre bien la futilité de ce que peuvent être parfois les sujets à propos desquels on se glorifie, les sujets desquels on s'enorgueillit. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit totalement exempt de ce genre de choses, pour peu qu'on ait reçu l'enseignement de tel prédicateur, tel pasteur célèbre, etc. Et ce que Paul répond, tout simplement ensuite, c'est « Ok, tu te revendiques de Paul ou d'Apollos, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est de l'un d'eux que tu as reçu l'Évangile. Ce n'est pas toi qui te l'es procuré tout seul et tu n'as donc pas sujet à t'en glorifier en quoi que ce soit. Tu es assez intelligent pour occuper un poste élevé, gagner beaucoup d'argent, à qui le dois-tu ? Tu es assez habile de tes doigts pour faire des travaux dans des maisons, dans des entreprises, peut-être dans des palais. Est-ce toi-même qui t'es équipé de ces doigts ? Tu comprends si bien comment marche la nature quand tu l'étudies dans ton microscope. Tu perçois si instinctivement les mystères qui l'animent, si bien qu'on te demande de faire des conférences dans le monde entier sur ce que tu as observé. Est-ce toi qui t'es acquis cette faculté ? Le serviteur ne possède rien en propre. Il ne tire sa richesse que du maître qu'il a lui a confié. Si le maître est pauvre, le serviteur est pauvre. Si le maître est avare et soupçonneux, il ne confiera rien du tout à personne. Notre richesse, c'est la richesse de notre Dieu. Tout en sachant que notre Dieu est riche en bonté, riche en grâce, riche en amour. On l'a chanté ce matin. Si bien qu'il nous dispense abondamment ses richesses et nous fait participer à leur fructification. Pourquoi donc le troisième serviteur est-il appelé méchant et paresseux ? Est-ce à cause du fait qu'il n'a pas fait fructifier son talent ? Oui, sans doute pour le qualificatif de paresseux, mais méchant. Pourquoi méchant ? Et en fait, ce sont ses propos qui trahissent les dispositions de son cœur. Il accuse à demi-mot son maître d'être injuste. Il l'accuse de faire travailler les autres alors que lui-même ne fait rien. Et à cette critique, le maître répond « C'est comme ça que tu me vois ? Ok. Mais dans ce cas, si c'est comme ça que tu me vois, je comprends que tu ne te sois pas lancé joyeusement dans une fructification active de ton talent comme l'ont fait tes deux collègues. Mais sois quand même logique avec toi-même. Si c'est ainsi que tu me voyais, comme un maître injuste, dur, exigeant, tu pouvais déposer ton talent à la banque où il aurait rapporté un tout petit peu sans prendre le moindre risque et pendant ce temps vaquer à des occupations qui comptent plus à tes yeux sans te soucier de rien. Mais tu as été assez paresseux pour ne même pas faire cela et assez méchant pour ne pas discerner ma bonté à ton égard, pour ne pas te sentir concerné par ma richesse, dont je voulais qu'elle soit aussi la tienne. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Le regard que nous portons sur nos talents trahit aussi un peu le regard que nous portons sur Dieu et sur sa grâce. Ce n'est pas en vain que Paul écrit aux Colossiens « Nous avons tout pleinement en lui ». Et tout, c'est tout. Et pleinement, c'est pleinement. Nous lisons dans le texte de l'évangile de Matthieu, cette parabole des talents, que le maître a remis, c'est le mot qu'on trouve dans cette traduction, a remis ses talents à ses serviteurs. Et j'ai profité de ce que Michael était hier à la maison pour lui faire vérifier dans le texte grec quel est le sens de ce mot remis. Est-ce que c'est un don, une sorte de cadeau qui est fait, un legs, et ensuite le serviteur en fait ce qu'il en veut? Ou bien n'est-il qu'un simple administrateur de quelque chose qui n'est pas à lui et le maître à ce moment-là reste le propriétaire? Eh bien, il se trouve que c'est très difficile de trancher parce que les deux idées cohabitent. Et le sens qui en ressort transcende les deux choses. Le maître est un homme bon, immensément riche, qui veut partager sa richesse avec ses serviteurs, qui veut qu'ils en jouissent, et en définitive, nous fait sortir de ce schéma propriétaire-esclave, employeur-employé, pour nous faire une rentrée dans une relation d'intimité familiale, père-fils, église, épouse du Christ, où tous travaillent ensemble, jouissent ensemble des dons qui ont été faits gratuitement et se réjouissent ensemble des fruits qu'ils portent. Entre dans la joie de ton maître, dit ce maître à ses deux serviteurs individuellement. Entre dans la joie de ton maître dès maintenant. N'attends plus. Considère-le comme il est. Bon, juste et saint. Reçois de lui tout ce qu'il veut te donner. Fais-en toute ta joie. Sois reconnaissant. Rends-lui gloire. Confie-lui ta vie. Confie-lui ta famille. Confie-lui ton église. Confie-lui ton service. Mais de grâce, entre dans la joie de ton maître. Et je pense qu'on peut reprendre le chant « Te connaître ». En réfléchissant bien, et je sais que vous l'avez fait assidûment la première fois, mais encore plus cette fois-ci, avec cette parabole des talents, à tout ce que ça implique pour nous.